Ambiante Memory sur Radio Graphite, l'émission dédiée aux musiques ambiantes. Philippe Hall vous transporte vers un nouveau voyage. Ambiante Memory, l'interview.
Bonsoir à toutes et à tous, Ambiante Memory, l'interview. Ce soir, je reçois Alexandre, artiste et producteur de musique ambiante. Il est aussi l'un des managers du label Marnostrum avec Anne. Alexandre, qui officie sous l'alias Le Code, vient nous parler de son parcours artistique, mais aussi de son label prolifique, Marnostrum. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Eh ben, merci d'avoir répondu à l'invitation d'Ambiante Memory. Merci d'être parmi nous ce soir pour nous parler de pas mal de choses, comme je disais un petit peu dans l'introduction, du label Mare Nostrum ou Marnostrum. Je sais pas, je pense que je fais à chaque fois la faute.
Mare Nostrum.
Mare Nostrum,
je crois que c'est du latin, voilà. Donc Mare Nostrum.
Mare Nostrum. Voilà. Tu vois, je suis pas très fort en latin, donc souvent je dis Mare Nostrum. voilà. Puis aussi de ton projet Le Code, parce que tu es un artiste prolifique, sous justement l'alias Le Code, et puis aussi voilà, par rapport aux différentes sorties du label. Mare Nostrum. Voilà. Est-ce que tu peux déjà dans un premier temps te présenter en quelques mots?
Oui, alors en quelques mots, donc voilà, je suis Alexandre, je suis producteur de musique ambiante depuis, on va dire, 2020, de musique électronique depuis bien plus longtemps. Voilà, et puis donc j'officie sous mon pseudo Le Code, comme tu l'as présenté, et puis je suis co-gérant du label Mare Nostrum, label ambiante franco-suisse. Voilà, depuis pareil, 2020. On a débuté en 2020. Voilà.
Donc trois années prolifiques, on en reparlera un petit peu après. Donc déjà, pour un petit peu planter le décor, donc te présenter, ça tu l'as fait, de savoir un petit peu comment tu as plongé, si je puis dire, dans la musique, comment tu en es venu à la musique, peut-être pas forcément électronique. Tu vas nous dire tout ça.
Oui, écoute, la musique, j'en écoute depuis tout petit, en fait. Bon, mes parents en écoutaient également. J'ai toujours rêvé de faire la musique étant petit, mais je n'ai jamais fait de solfège, je n'ai jamais fait de maîtrise d'instruments, de choses comme ça. Ce qui fait que j'ai dû attendre d'être dans ma vie d'adulte et indépendant pour pouvoir commencer à toucher un petit peu les logiciels de production musicale, les DAW, ce qu'on appelle, commencer à toucher les plugins de synthé virtuel, ce genre de choses. C'est comme ça que j'ai commencé à faire de la musique un peu tout seul au départ, comprendre comment ça fonctionnait, et puis après avec des groupes, et puis après avec des projets solo, etc. Mais tout ça, j'ai vraiment débuté dans les années 2000 à faire de la musique en autodidacte, du coup. Je suis, on va dire, pas vraiment un musicien, puisque j'ai pas de formation en tant que tel. Je suis vraiment un autodidacte. Je pense que ça se passe plutôt bien comme ça, voilà.
Oui, après, même en autodidacte, voilà, c'est d'apprendre à dompter du coup les claviers, parce que tu utilises des claviers et puis d'autres machines, j'imagine. Ouais. Donc il y a eu un avant Marnostrum. Tu nous disais que tu es officier dans différents groupes. Est-ce que c'était, j'imagine, des groupes rock ou plutôt pop rock ou d'autres styles?
Alors j'ai officié sur plusieurs styles de musique. Mon premier groupe était un groupe de métal où j'étais le chanteur. Bon, c'était un petit peu compliqué pour moi de grôler dans le micro. C'était avec un ami à l'époque du lycée, on avait fait ça, et puis on a fait quelques concerts. Et puis après, je voulais quand même continuer un peu. Enfin, la musique électronique m'intéressait beaucoup, le bidouillage informatique, ce genre de choses que j'avais pas trop la liberté de faire sur ce groupe-là. Et donc, j'ai monté un groupe, c'était un duo de trip-hop électronique et qui a été soutenu par une SMAC, en fait, une SMAC locale. Donc, on a fait des beaux concerts, on a été soutenus, on a eu quelques dispositifs d'accompagnement. Et puis, c'est comme tous ces projets un peu musicaux, on va dire semi-pro ou un peu amateur, au bout d'un moment, ça s'essouffle, on se quitte. Après, j'ai eu un groupe de rock, rock électro, et puis un groupe post-rock, qui là aussi a été soutenu par une SMAC, une autre SMAC locale également, où pareil, on a eu un accompagnement. Mais pareil, ça s'est arrêté, voilà. Donc, toujours dans l'électronique, j'étais toujours le musicien avec un ordinateur, des claviers, J'étais le monsieur bidouilleur, le monsieur qui bah, quand quelque chose ne marchait pas, bah, ça venait toujours de moi, parce que c'était soit l'ordinateur qui buguait, soit le plugin qui ne marchait pas, soit il y avait toujours quelque chose. Et voilà. Mais des très bons souvenirs. J'ai appris énormément de choses sur ces groupes-là. Enfin, quand j'ai joué dans ces groupes-là, que ce soit sur la scène, mais aussi sur la gestion un peu de studio, parce que du coup, tous les enregistrements de titres se passaient chez moi. Donc, j'ai pu me former un petit peu sur le mixage, un petit peu sur le mastering. Loin de moi l'idée d'être vraiment spécialiste là-dedans, mais au moins, j'ai eu de bonnes connaissances, on va dire, là-dedans. Voilà.
D'accord.
Est-ce un qu'il y a... peu par quoi.
Bah oui, c'est un joli parcours. Du coup, est-ce que vous avez produit aussi des albums, peut-être, ou c'était vraiment simplement de, on va dire, de l'événementiel, des concerts, ce genre de choses, enfin de live, du coup, quand c'était de la musique plus électronique. Est-ce qu'il y a du coup une trace d'album ou autre qui existe?
Oui, oui. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, c'est-à-dire d'avoir, même si les projets sont finis, ils sont de toute façon sur les plateformes de streaming. Donc ça, c'était aussi ma partie, de mettre un petit peu en ligne les choses comme ça. Donc tous mes anciens groupes sont tout à fait disponibles sur les plateformes de streaming, en fait. Ouais, ouais.
Et après, bah, de fil en aiguille, si je puis dire, bah, tu en es arrivé justement aux musiques ambiantes. Alors, est-ce que tu as commencé tout seul, ou je sais que tu as eu un duo avec Gaëtan, avec le projet Belle Brume. Est-ce que bah, ça marque justement le début de l'ambiante musique et peut-être bah, les prémices du label Mare Nostrum ?
Alors oui et non. En fait, j'étais depuis quelques années, un peu avant 2020, en fait, je me demandais ce que c'était l'ambiance. J'aimais bien un petit peu ce genre de niche un petit peu. Je me demandais comment on y arrivait et progressivement, ma musique se rapprochait de plus en plus. J'avais encore à l'époque des beats un peu techno, des rythmes un petit peu, voilà, mais je mettais de plus en plus de pas, de plus en plus de choses atmosphériques dans ma musique, et au final, voilà, en 2020, j'ai dit, bon, allez, j'ai envie vraiment de me mettre, d'essayer l'ambiance, voir ce que c'est. Et j'ai sorti deux EP coup sur coup, un qui s'appelle White et l'autre qui s'appelle Black. Voilà, c'était le concept du moment. C'était vraiment, donc pendant le confinement, j'ai fait ça. Alors, c'est une musique ambiante à l'époque, c'est comme ça que je la voyais. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec ce que je fais. Mais voilà, il faut bien un début à tout. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Donc en fait, l'ambiance, je l'ai fait un peu de façon solo. Avec Gaëtan, on s'est revu après, on a réfléchi à un projet musical qui s'appelait Belle Brume, mais à l'époque, on voulait faire quelque chose qui se rapproche, je ne sais pas si tu connais, le groupe Paradis. Je ne sais pas si tu connais.
Alors, pas du tout. Pas du tout.
Pas du tout, voilà. Alors, c'est un groupe, ça chante en français, mais c'est un peu deep, house, c'est un peu, donc il y a des rythmes, des choses comme ça. Et puis on a commencé à composer un peu dans ce style, on a fait quelques maquettes, rien ne nous satisfaisait vraiment, on n'était pas trop dedans. Gaëtan, c'est lui, il a une formation de chant, donc c'est lui qui prenait la partie, enfin le micro. Et au final, un jour, on s'est dit, non, mais parce qu'on parlait beaucoup d'ambiance tous les deux, lui me disait qu'il aimait bien ce que j'avais fait, tout ça, puis on s'est dit, bon, bah, allez, Belle Brume, ça va être un groupe d'ambiance. Et c'était une évidence, en fait. On s'est dit, mais oui, en fait, pourquoi on cherche, pourquoi on s'obstine à faire un truc qui ne nous satisfait pas, où on se sent un peu moyen, on va faire de l'ambiance. Et du coup, c'est comme ça que Belle Brume est née.
D'accord. Et bah, du coup, voilà, après, bah, vous avez sorti quand même pas mal de morceaux. Bah, après, vous avez aussi fait pas mal d'autres choses, notamment un podcast avec Gaëtan qui s'appelait Ambient Travelers.
Oui, exactement.
Donc le concept, c'était de parler d'une région et du coup d'un artiste qui vient de cette région et qui plus est, qui soit ambiante. Voilà, bah après, comment ça s'articulait ? Donc ça, vous étiez deux, donc chacun peut-être avait une partie à s'occuper pour qu'en finalité, justement, le podcast prenne naissance, enfin naisse, et puis voilà, qu'on ait un podcast à écouter. Comment ça se déroulait ?
Alors l'idée est venue, je ne sais plus trop comment l'idée est venue en fait, on a parlé podcast, on a dit qu'on voulait en faire un, voilà, on a réfléchi au départ, Ambient Traveler, c'était nous qui parlions d'une région qu'on aimait bien et ça on s'en suivait un mix en fait. Et au bout de 2-3 épisodes, on s'est aperçu qu'on allait être un petit peu à court rapidement d'idées, donc d'où est venue l'idée de faire plutôt intervenir des artistes. Au début, on était parti sur les artistes francophones, donc bah, du coup, on allait un peu à la pêche aux artistes, on les contactait, voilà, on a un podcast, voilà, le concept, machin, et puis souvent, ça a répondu de façon très positive. Et donc voilà, on préparait nos questions, on se calait un jour d'enregistrement avec l'artiste, et puis go, voilà, on a enregistré notre épisode comme ça. Et un peu après, on a décidé de faire une sous-émission, c'est-à-dire qu'une fois par semaine, l'un et l'autre, on choisissait un artiste et on le présentait avec un morceau qui nous semblait opportun à écouter, qui représentait bien l'artiste. Et comme ça, ça servait un petit peu de découverte. L'un et l'autre, on se faisait découvrir des artistes et puis également aux auditeurs du podcast. Tout simplement.
Bon, après, voilà. C'était pas que des régions. Vous avez aussi un artiste américain, Mark Schirmacher, je crois.
Schirmacher. Trampoline.
Oui, on a
eu Maton. Ouais, on a eu Matt Tondu, on a eu des artistes américains, on a eu Kate Fall aussi. Alors, la partie anglaise, nous, c'était pas notre fort. Du coup, on préparait les questions en avance, on demandait ce qu'ils écrivaient, en fait, le script en anglais en avance pour que nous, derrière, on traduise et qu'on réenregistre la voix de traduction. C'était du boulot, mais c'était super chouette. Là aussi, on a passé de bons moments. Mais c'est vrai que l'anglais, entre l'anglais et le français, nous, c'est pas notre langue du tout. On se transforme moyen, donc c'était un petit peu compliqué. Mais c'était super, ouais. Malheureusement, oui, bah voilà, le podcast s'est un peu arrêté, faute de temps, faute de plein de choses. Pour ma part, c'est un grand regret parce que j'aimais beaucoup faire ça. Je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose de bien dans ce qu'on faisait. Et voilà, faire du podcast me manque vraiment. Je passe pas une semaine sans que je me dise, allez, je vais lancer mon podcast. Et puis, je pense qu'il faut quand même qu'il y ait quelqu'un pour faire un podcast tout seul. Je trouve que c'est un peu compliqué. Il faut qu'il y ait un échange. C'est ça l'intérêt du podcast. Donc, bon, voilà. Pour l'instant, peut-être que ça viendra plus tard. Je sais pas.
Non, tout à fait, mais tu peux reprendre. Et puis bon, c'est vrai que pour en revenir à Ambient Travelers, ben, c'était assez intéressant. Voilà, les régions, après ben, l'étranger, Matt Tondu qui est plus en Australie, ouais. Marc qui était aux États-Unis, etc. Donc c'est vrai que du coup, ça permet voilà, d'avoir justement différentes visions. Parce que d'un pays à l'autre, vraiment la musique, notamment la musique ambiante, n'est pas perçu de la même manière. Les gens sont des fois plus ou moins actifs aussi. Enfin voilà, le rendu n'est pas toujours le même. Et c'est vrai que la barrière de la langue, enfin moi je sais que je rencontre aussi, c'est pas forcément évident. Donc il y a une préparation bien avant, justement assez conséquente pour vraiment bien organiser le podcast. Chronologiquement, donc le label est venu s'est développé avant ou après tout ça? Ou il y a encore eu des choses entre-temps?
Non, ça a été un peu en parallèle. En fait, le label Marino Strum, on l'a débuté avec Anne, en fait, dès le départ, en 2020. Belle Brume, je crois, est arrivée un petit peu après, puisque, ou plutôt peut-être sur la fin 2020, tandis que Marino Strum, c'était plus l'été 2020. Et Marino Strum, moi, personnellement, ce n'était pas mon premier label. Moi, j'avais un label avant qui s'appelait Apnea. qui est un label de dub techno et deep techno que j'avais fondé en 2016. Et puis que jusqu'au début 2023. Puis là, je l'ai arrêté faute de temps aussi. Le temps, c'est... Enfin bon, il fallait qu'on ait une double vie pour pouvoir mener tous les projets qu'on voudrait mener, mais bon. Et donc... Donc voilà, donc j'avais ce label, et ce qui fait que j'avais déjà sorti sur le label quelques sorties ambiantes. J'avais pas trop pris parce que bah, c'était pas vraiment le style de prédilection du label. Et j'avais un moment où je me disais, bon, il faut peut-être que... maintenant que je m'intéresse beaucoup à l'ambiante, que j'ai envie d'en faire, peut-être que c'est vers là qu'il faut que j'aille et que je crée un autre label. Et au moment où j'avais dit, bon, je crée, bah, j'ai un artiste que j'avais sorti sur Atmea qui m'a dit, bah, tiens, j'ai des copains, ils font de l'ambiante, et il m'avait envoyé plein d'artistes comme ça. C'est des artistes comme Tom Leclerc que j'avais sorti, des gens comme ça, en fait. La toute première sortie qui était, mince, j'ai un trou de mémoire, Balade imaginée de Tom B. Voilà. Donc ça, voilà, ça a été des contacts complètement par hasard, mais ça tombait super bien en me disant, bon, allez, c'est le moment, je crée. Et donc, j'ai créé, j'ai dit, allez, je lance le label, puis j'en ai parlé à Anne qui m'a dit, Anne, c'est quelqu'un que je connais depuis, je sais pas, 10, 15 ans, ouais, plus que ça, 15, 20 ans. On a fait énormément de choses ensemble. On avait un projet de vegging au départ, c'est-à-dire qu'on mettait en image des soirées techno. Donc on a écumé pas mal de soirées techno genevoises, et nous, au lieu de mixer de la musique, on mixait des images. Donc on illustrait ce genre de soirée à Genève et en Suisse romande. Voilà. D'accord. Et donc Anne, elle me dit, pardon ?
Non, je dis, ça n'est pas un travail facile parce qu'il faut être vraiment en corrélation avec le DJ ou le live pour vraiment retranscrire avec des images quelque chose qui soit cohérent avec le set.
Avec le set, alors, la plupart du temps, on nous disait, voilà, la couleur de la soirée, ça va être dark, ou ça va être hard, ou ça va être... Donc, du coup, on adaptait un peu en amont. Mais vraiment, sur l'artiste, c'était un peu compliqué, effectivement, on n'avait pas forcément de lien avec lui. Donc, on essayait de se caler plus à l'ambiance de la soirée, ce que les organisateurs voulaient. Voilà. Et après, on lançait les images comme ça. Et donc, Anne, à ce moment-là, elle me dit, bah, écoute, ça tombe bien, je recherche un peu des projets un peu artistiques, j'ai envie de me remettre un petit peu dans la vidéo et tout ça. Et donc, c'est comme ça qu'est née Barrel Strum en disant, OK, on sort un artiste et à chaque sortie, Anne fait une vidéo. Donc, voilà, elle va filmer des images, elle montre quelque chose qui l'inspire, etc. Et bien sûr, bah, elle s'occupe du visuel, de la pochette, etc. Donc ça a été en fait ça le point de départ du label Mare Nostrum. Et puis après, bah, des personnes se sont greffées. Il y a Gaëtan qui est venu nous rejoindre quelques mois. Voilà, il avait apporté notamment, il a pas mal travaillé sur la toute première compilation d'Aivin. Ensuite, il y a Are Morica, Tanguy, qui est venu également nous rejoindre pendant quelques mois également.
Oui, il était basé à Bali, je crois, ou dans ces régions-là.
Plutôt Katmandou, ouais.
Katmandou. D'accord.
Au Népal. Philippines.
Ouais, ouais. Au Népal.
Et donc, du coup, lui s'occupait, il avait réussi à accrocher des artistes, en fait. Il allait un peu à la pêche aux artistes. Bah, bien sûr, Mare Nostrum, tout ça. C'était plus, c'était notre commercial, quoi, un petit peu, si je peux résumer comme ça. Voilà, bah, pareil, lui aussi, il a d'autres projets qui sont arrivés rapidement derrière. Un projet notamment sur YouTube qui marche super bien. Il y a un très beau projet sur YouTube. Vraiment sur le Népal, sur la vie là-bas, en tant qu'étranger, en tant qu'expatrié. Super projet, ouais. Et puis voilà, donc après, ben, on s'est retrouvés à deux avec Anne, on a fait notre petite vie, voilà, jusqu'à aujourd'hui. Voilà.
Très bien, vous avez aussi animé, tu parlais de podcast tout à l'heure, mais aussi un podcast, oui. Mare Nostrum, pour justement parler des différentes sorties Mare Nostrum, du coup, ouais. Des artistes aussi. Vous faisiez un duo, oui, il y a eu pas mal de podcasts aussi, propre au label Mare Nostrum.
Oui, exactement, c'était pas mal. On faisait, on faisait un petit peu le récap du mois passé, en fait, les sorties, des infos, des choses qui nous ont inspiré le mois passé. C'était bien, c'était un bel échange. Et en parallèle, on avait aussi le podcast de mix. Donc là, c'était 100% musical. On avait des mix. On essayait de faire un mois chacun. Un mois, c'était elle qui mixait la musique ambiante. Un mois, c'était moi, etc. On a essayé de faire ça. Donc là aussi, on a une cinquantaine d'épisodes de mix ambiante qui sont toujours en ligne si vous souhaitez écouter. et profiter des mix ambiantes. Voilà.
Bien sûr, on en reparlera sur les réseaux sociaux, donc de se connecter sur l'Insta et le Facebook aussi de Mare Nostrum.
Principalement.
Ouais, ouais. Et voilà, aussi, on en parlera des plateformes où on peut se procurer les différentes productions. Donc du coup, effectivement, le label a bien évolué. Donc il y a personnes qui sont venues, qui sont reparties parce qu'ils avaient d'autres projets. Donc actuellement, vous êtes en duo avec Anne et toi. Vous avez eu pas mal de projets. Alors tu parles aussi des compilations d'Yves. Il y en a eu pas mal. Donc c'est vrai que vous faisiez appel à des artistes pour justement pouvoir élaborer ces différentes compilations. Donc j'imagine que vous avez eu beaucoup de morceaux qui vous ont été envoyés. J'imagine que la sélection n'est pas forcément évidente. Donc la belle Mare Nostrum, c'est essentiellement, je vais peut-être dire une bêtise, des musiques ambiantes atmosphériques, en tout cas tout ce qui gravite autour de ça, ou c'est aussi d'autres genres musicaux, du type ambiante un peu plus... peut-être un peu plus sombre ou pas, où ça reste vraiment atmosphérique.
Je tends plus à quelque chose d'atmosphérique, effectivement. On a testé différentes choses. On ne s'est pas trop mis de barrière quand on recevait, par exemple, des soumissions, des choses comme ça. Par goût personnel, je vais rester plus sur de l'atmosphérique désormais. Les choses un peu sombres, ça ne nous a jamais trop... plus. Donc tout ce qui est très drone, très très dur, tout ça, on a un peu de mal. La musique modulaire, c'est quelque chose qui est un peu spécial aussi. On a testé avec quelques artistes, ça a moyennement pris malheureusement, on va rester vraiment sur de l'atmosphérique. J'ai envie de dire quelque chose qui reste positif, sans tomber dans le new age machin, mais relaxant, positif, relativement facile à écouter, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, même si on peut s'autoriser des sorties peut-être un peu plus pointues entre guillemets, je pense notamment, on va en reparler, mais Ghost in the Loop, c'est peut-être moins atmosphérique, moins ambiant comme on pourrait l'entendre, on est plus sur de l'électronique, peut-être un petit peu ambiance électronique, je sais pas, on pourrait s'autoriser des choses comme ça, oui. Mais oui. Tout ce qui est modulaire, drone, dark, tout ça, non, on va passer notre chemin.
Tout ce qui est un peu space, il y a de la guitare, pour The Ghost in the Loop, par rapport à l'album, avant l'album dont on va parler, le chant de la glace.
De la glace, ouais.
Après, il y a eu pas mal d'artistes, donc il y a eu Ancien Astronaute, Philippe Deschamps, donc tu parlais tout à l'heure de Tom Leclerc, il y avait aussi Mirouf, là ça faisait plus partie justement d'Ambient Travelers, parce que vous l'avez interviewé, comme c'est une personne qui est du côté de Nantes, comme Tom Leclerc, je crois.
Comme Tom Leclerc, voilà.
Ces artistes qu'on a pu découvrir. Donc il y a eu 4 compilations, d'Yves 4, donc c'est vrai que ça devait être un sacré travail déjà de sélection de morceaux, donc aux couleurs plus atmosphériques par rapport au label. Est-ce que... y a des gens auxquels vous avez dit mince, on a fait une compilation avec tant de titres, on aurait pu en mettre plus parce que du coup d'autres artistes sont bien. C'est peut-être aussi pour ça que vous avez fait différentes compilations. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est comme je disais tout à l'heure, c'est pas forcément évident de sélectionner presque.
Ouais, c'est plutôt l'inverse qu'on a eu sur les dernières compilations, c'est-à-dire que les trois premières, sauf erreur, on a ouvert à tout le monde, on a fait un appel à artistes et on a reçu beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de choses ont été sélectionnées. Et ça faisait quand même des compilations très, très longues. On approchait 15, peut-être 20 morceaux, peut-être pas autant, mais c'était quand même des compilations très, très longues. Et sur la dernière, on s'était dit, on ne va pas faire un appel aux artistes. Cette fois, on va aller directement voir les artistes et leur dire, est-ce que vous voulez participer à la compilation? Donc, il y en a qui nous ont dit oui, il y en a qui ont décliné parce que pas le temps, parce que voilà. Ce qui fait qu'on a une compilation de 10 titres, si ma mémoire est bonne. Et je trouvais que c'était plus cohérent, c'était moins long peut-être, mais plus cohérent. Ouais, donc... pas de regret par rapport à ce qu'on a pu recevoir ou pas. Et aujourd'hui, j'ai des artistes qui me disent « quand est-ce que tu sors la prochaine compilation ?» parce que ça m'intéresse de participer. Et je pense qu'on va plus fonctionner comme ça. Je ne vais plus faire d'appel à artistes. Et plus les gens, s'ils le veulent, ils soumettent. Et puis nous, on ira chercher un peu des artistes, peut-être d'abord du label, privilégier les artistes qu'on a déjà eus dans le label en disant « est-ce que vous voulez participer ?» et puis voir après d'autres... on va plutôt faire comme ça. Parce que oui, comme tu le dis, la gestion est incroyablement lourde sur une compilation. C'est lourd, c'est très très lourd. Quand il y a beaucoup d'artistes, bah, il faut avoir un contact avec chaque artiste, le suivre. Tu m'as pas envoyé ton fichier et machin, il manque ci, il manque ça. Il y a des mails, ils sont reçus, on a des mails qui ont été envoyés, ils sont reçus dans les spams. Les artistes, le jour de la sortie, ils me disent « Mais comment ça, je suis dans la compilation, je suis pas au courant. » Bah si, je t'ai envoyé un mail, tu m'as pas donné de réponse. Enfin voilà, c'était un peu compliqué, c'était un peu compliqué.
Justement, on est arrivé aussi au projet Ghost in the Loop avec oui. Du coup son dernier album et puis surtout le vinyle en édition limitée. Donc là, ça devait être encore plus compliqué. Enfin, je sais pas, plus lourd, peut-être pas plus compliqué, mais plus lourd au niveau de la gestion parce que c'est quand même un joli projet. Donc, justement, cet artiste Aurélien qui a été dans un glacier pour enregistrer justement des sons et pouvoir en faire des morceaux. Et du coup, bah, bien sûr, le sortir en album numérique. Et bah, la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, parce que je suis assez fan de vinyle. Donc, éditer aussi un vinyle en édition limitée, de pouvoir le promouvoir, etc. Donc, j'imagine que c'était un programme assez lourd. Est-ce que voilà, ça a été difficile? Est-ce que tu t'es fait des cheveux blancs? Je ne sais pas. Enfin, tu vas nous dire tout ça.
Alors, cheveux blancs, peut-être pas. Je vais rendre à César ce qui est à César. C'est vraiment Aurélien qui a géré pratiquement de bout en bout la partie vinyle, en fait. Nous, on est resté sur la partie numérique. Anne a fait la pochette quand même du vinyle, les belles fichiers graphiques, etc. Mais sur la partie vinyle, c'est Aurélien qui est allé chercher Digger's Factory, qui a négocié avec lui, qui gérait, qui voyait un petit peu où est-ce qu'on en était sur les précommandes. Quand il fallait offrir des vinyles, ben, du coup, il a fait le label qui les achetait. Enfin bon, voilà. Donc vraiment, Aurélien, c'est un artiste qui se donne à fond dans son projet, plus qu'à fond même. Il vit pour son projet et du coup, le vinyle, ouais, c'est vraiment lui. Qui l'a énormément géré, oui.
Alors effectivement, quand on présente un projet comme ça, on se dit, voilà, c'est un projet fou, est-ce qu'on va réussir à faire ce qu'il faut, enfin, comment ça s'est fait? Ouais. Donc, effectivement, la partie vinyle, voilà, vous étiez un petit peu soulagé du fait qu'Aurélien fasse le nécessaire, mais de se dire, voilà, est-ce qu'on va réussir à bien gérer le tout, voilà, comment ça se passe?
En fait, on l'a accompagné malgré tout, hein, on l'a accompagné sur les réseaux sociaux, on essayait de relayer les nombreux posts qu'il faisait. Le label a aussi payé un peu de pub sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pour essayer de faire connaître le projet. Nous, c'est comme ça qu'on l'a soutenu en fait sur ce projet-là. Oui, je ne sais pas si je réponds à ta question.
Si, si, bah après, voilà, c'est, oui. Si, voilà, c'est un travail d'équipe. En même temps, vous êtes une équipe.
Oui, oui.
Et du coup, ce qui est bien, c'est que tous les vinyles en édition limitée ont été vendus. Enfin, c'est sold out. Maintenant, c'est épuisé. Enfin, si on veut se le procurer en vinyle, c'est impossible. Je ne pense pas qu'il y aura une réédition.
Si. Il y a du stock, en fait. Il y aura du stock. D'accord. J'en discute avec Aurélien. Je ne sais pas comment on va gérer ça. Mais si, il y a du stock, en fait. Le stock qui restait a été racheté. Donc je pense qu'il y aura quand même des vinyles qu'on pourra se procurer par la suite. On va voir comment on va gérer ça avec Aurélien. Mais si.
Thank you.
Après, est-ce qu'il y a d'autres projets à venir, un peu dans le même style, où il y aura un vinyle, ou rester sur des choses plus numériques au niveau du label?
Non, sortie physique, on va rester sur du numérique. Le vinyle, c'est... Même le format physique reste compliqué. Je pense qu'il faut avoir une bonne fanbase, que ce soit du côté de l'artiste et du côté du label. Ou un public qui soit friand de ce genre de support. On l'a testé avec des cassettes, on l'a testé avec des vinyles. Moi, je l'ai testé personnellement avec des CD. Voilà, ça a rencontré un succès, on va dire, pas autant que ce qu'on espérait, je pense. Voilà, donc du coup, non, sortie physique, pour l'instant, je pense qu'on ne fera plus. On ne fera plus pour l'instant.
Non, après, bah, aussi, la musique se consomme différemment aussi.
C'est vrai aussi, mais après, moi j'adore l'objet physique, hein, le vinyle, même le CD qui revient apparemment à la mode en ce moment, enfin la cassette aussi, c'est juste génial, moi j'adore. C'est juste que, bah, voilà, il faut arriver aussi à être en phase avec le public en face de nous. Moi, je suis très admiratif d'un label, Past Inside the Present, qui sort chaque sortie sort en vinyle. C'est génial, quoi. Je suis très admiratif de ça, parce que je pense qu'ils arrivent vraiment à écouler leur stock et à faire... Enfin, voilà, c'est une sacrée gestion. Je suis très admiratif de ce label. C'était un peu un modèle... Pour la partie physique, en tout cas.
Oui, c'est vrai que c'est un coût. Enfin, le vinyle, ça va être le coût le plus important. Après, la cassette, ça a l'air d'être assez rentable. Le CD, oui, ça revient à la mode. Enfin, surtout la cassette. Après, j'ai entendu pour la cassette, le CD, je ne sais pas. Mais effectivement, certains artistes qui sortent toujours des albums en support CD. Et puis, bien sûr, en numérique, comme je disais. C'est vrai que la musique s'écoute différemment. Maintenant, on télécharge les morceaux, on le met dans son iPod ou dans son PC. Enfin voilà. Après, c'est vrai que du coup, la consommation de la musique se fait un peu différemment. Et qui plus est, l'ambiance, bien souvent les gens mettent ça en fond sonore. Après, voilà, c'est vrai que c'est une musique où généralement, j'ai envie de dire, après ça n'engage que moi ce que je veux dire, où il faut vraiment s'asseoir pour apprécier ce genre de musique. On ne peut pas faire une activité quelle qu'elle soit en écoutant de l'ambiance. C'est une musique vraiment où il faut vraiment se poser pour vraiment apprécier ce genre musical. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi ou pas, mais
complètement. En tout
cas, moi je le vois comme ça.
C'est tout à fait ça, et c'est pour ça que comme tu dis, le support physique s'y prête très très bien. D'avoir un bel objet, de se mettre en immersion, avec en plus un objet dans les mains, oui, complètement, complètement. Ouais.
Alors est-ce qu'il y a par rapport au label Mare Nostrum, des événements à venir? Parce que je sais que de temps à autre, c'est peut-être pas forcément régulier, sous le pseudo Le Code, tu officies pour différents événements. Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues ou pas du tout?
Alors ça m'est arrivé, effectivement, ça m'est arrivé dans l'année 2000, l'année dernière en fait, 2023, et puis 2022 aussi, on avait fait des siestes sonores avec Gaëtan, avec Belle Brume. Alors rien n'est prévu, mais ça peut arriver dans l'année. C'était vraiment cool, j'avais pu mixer un petit peu d'ambiance sur une soirée, un vernissage de photos d'aurore boréale, et bien du coup ça s'y prêtait super bien, c'était super. Ce genre d'événement, moi je suis très friand, j'aime bien faire ça, mais non, malheureusement pour l'instant rien de prévu, mais bon, ça peut peut-être tomber comme ça, voilà.
Et au niveau peut-être des sorties, enfin je sais pas, après il y a peut-être des choses encore top secret, mais des sorties à venir pour février, mars et les mois à venir sur le label, justement, est-ce qu'il y a des choses que tu peux nous dévoiler?
bien sûr. Alors là, le label, sur les sorties, on va dire ce que j'appelle les grosses sorties, c'est-à-dire les EP ou les albums, on est full jusqu'en juillet. Donc on a là ce mois-ci, on a Périphranque et Close Labyrinthe qui sortent un EP. Le mois prochain, ce sera moi. Voilà, c'est moi qui me sortirai un EP Le Code. En mars, on aura Bell Rig, qui est un nouveau pseudo de Andrew Land. Je ne sais pas si tu vois qui c'est, peut-être. Je fais beaucoup de piano. Et donc, là, du coup, il a un album un peu plus expérimental, mais ça reste ambiante. Je vais avoir aussi Philippe Deschamps dans les prochains mois. Un autre EP avec Perry Frank et Brandon Lane qui sont ensemble, et puis Aurélien, Ghost in the Loop, je vais l'annoncer, je ne sais pas si c'est un truc ou quoi, mais devrait faire un addendum au Champ de la Glace, donc des titres supplémentaires, et voir pourquoi pas avec encore des artistes qui souhaiteraient inviter pour compléter un petit peu ça. Je ne sais pas, c'est encore à l'état de projet, mais c'est quelque chose qu'il a très envie, donc Ça arrive de se faire, je pense.
Ouais. Oui, je m'en avais plus ou moins laissé entendre ce genre de choses. Donc oui, tout à fait.
Ouais.
Après, c'est oui, effectivement bien chargé jusqu'à l'été 2024.
Ah ouais.
Et justement, où peut-on se procurer vraiment toutes les productions? Donc j'imagine bien sûr sur les plateformes genre Bandcamp, où on peut se
Et
fournir.
voilà, j'allais dire, voilà, toute la partie streaming, évidemment, on est présent un peu partout. Et puis, Bandcamp, voilà, j'aime bien envoyer les gens sur Bandcamp aussi. Ça permet de soutenir un peu plus directement les petites structures, les petits artistes, sans qu'il y ait que je, comment dire, c'est pas négatif quand je dis petit, mais voilà, enfin, qui ont moins de visibilité peut-être. D'autant qu'avec les nouvelles règles de Spotify, c'est un peu plus compliqué de soutenir un artiste aujourd'hui. Il faut qu'il atteigne un certain seuil pour être payé, là, ce genre de choses. Donc, oui, allez plus sur Bandcamp, vous y trouverez notre musique. Tous nos singles qu'on essaie de sortir un peu régulièrement sont en téléchargement gratuit ou vous payez ce que vous voulez si vous souhaitez nous soutenir. Donc, allez sur Bandcamp, ouais, sur Bandcamp.
Oui, du coup, les artistes sont rémunérés à juste titre en allant sur Bandcamp,
Ouais, voilà,
généralement.
exactement. Ouais.
Donc, oui, faut pas hésiter. Donc, j'imagine aussi que vous êtes sur les réseaux sociaux. On a un petit peu parlé tout à l'heure, donc Instagram, en tout cas pour le label, pour ton projet aussi, le code, pour les différents
Oui.
artistes aussi qu'on peut retrouver sur le label.
Bien sûr,
Instagram,
tout à fait.
Facebook.
Instagram, Facebook, un peu X Twitter, voilà, principalement. Mais je savais que c'est là où je communique le plus, je pense que c'est Instagram, effectivement. Ouais.
Ben oui, écoute, c'est vrai qu'Instagram fonctionne plutôt pas mal par rapport à Facebook qui s'essouffle peut-être
Oui,
un petit peu, mais toujours des
exactement.
gens en tout cas qui y a toujours des interactions sur voilà, les réseaux sociaux.
Tout à fait, voilà.
Très bien. Eh bien, écoute, je te remercie, Alexandre, de nous avoir éclairé sur déjà sur le label et puis parler aussi de des différents projets, ton projet solo, Le Code. Voilà, ce qu'on peut souhaiter, c'est que voilà que ça perdure. En tout cas, comme je disais tout au départ, le label est prolifique. Il y a beaucoup de sorties, les compilations. Donc du coup, après le projet aussi de Ghost in the Loop, les différents aussi albums que tu as pu sortir et qui vont sortir, te concernant et concernant les autres artistes, comme tu disais tout à l'heure. Voilà, je ne sais pas ce qu'on peut te souhaiter d'autre, enfin à toi et au label.
Tu as tout dit, je crois. Oui, vraiment un grand merci de m'avoir reçu et d'avoir pu présenter les deux projets comme ça. Ouais. Merci beaucoup.
Y a pas de souci, tu reviens quand tu veux, parce que je pense que on aura l'occasion de se retrouver du coup sur les antennes de Radio Graphite et puis plus précisément dans
Ouais.
l'émission Ambient Memory pour parler des autres sorties, d'autres projets à venir des différents artistes. En tout cas, voilà, tu seras le bienvenu, enfin tu es le bienvenu et tu seras toujours le bienvenu.
C'est gentil, merci beaucoup.
En tout cas, merci. Et puis, voilà, on reste à l'affût sur les réseaux. Voilà, il y a aussi l'achat sur les différentes plateformes des albums et compilations du label Mare Nostrum. Vous retrouvez toutes les infos sur Instagram en cherchant du coup sur Mare Nostrum, le code, et puis voilà, les différents artistes. Et sur Ambient Memory aussi, vous pouvez retrouver toutes les infos nécessaires sur les différents postes. En tout cas, merci beaucoup. Bonne soirée à toi, Alexandre. Bonne nuit même. En tout cas, merci beaucoup. Et puis à très bientôt.
À très bientôt, merci beaucoup. Au revoir.
Merci à toi. Au revoir.
Graphite.
L'émission se termine. Si vous souhaitez vous procurer ou avoir plus d'informations sur le label Mare Nostrum et le code, connectez-vous sur les profils Instagram et Facebook du label ainsi que celui de l'artiste. Plus d'infos également sur les réseaux sociaux d'Ambient Memory. Vous avez pu écouter durant l'interview les morceaux suivants. Arby avec Contour Défini, extrait de l'album Petit Pas. Crows, Labyrinthe et Frank Perry avec le morceau Daylight Sonata. Le Code, Memory Island, Ghost in the Loop, L'Imaginaire des Glaciers, extrait de l'album Le Chant de la Glace. Et pour terminer, The Green Kingdom avec Sol 3. Dès lundi, le podcast sera disponible sur vos plateformes habituelles. Merci de nous suivre de plus en plus nombreux. Je vous donne quant à moi rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau voyage. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao.
Ambiante Memory.